Cette semaine, je méditais sur un passage de la parole, un petit verset, mais qui est vraiment puissant. C'est le verset qui est dans Psaume 119, verset 105. C'est « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Qui le connaît? Il y a des chants pour les enfants. OK, tout le monde, la majorité. Donc, vous savez ce que... Mais pour ceux qui peut-être nous rejoignent, qui ne sont pas forcément familiers avec ce qu'est la parole de Dieu, la parole de Dieu, c'est littéralement la Bible. C'est la parole que Dieu nous donne, elle est appelée la parole vivante, parce qu'on va le voir ensemble. C'est Dieu continue de parler. Ce n'est pas seulement qu'il a parlé à des prophètes, à des personnes, des hommes et des femmes importants dans la Bible, et puis maintenant c'est fermé, et puis voici. Non, Dieu continue de parler, mais il parle à travers sa parole. Et lorsque je méditais sur ce simple verset, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers », c'était fort parce que je me dis, trop souvent, la lumière est là, mais on ne l'allume pas. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « N'éteins pas la lumière ». Dites-le avec moi pour être réveillé. « N'éteins pas la lumière ». En ce moment, avec les enfants, je ne sais pas si vous avez des enfants en bas âge, mais la lumière est très importante. Même dans le noir, quand ils dorment, « Papa, il faut que tu allumes la lumière ». Il faut vraiment qu'il y ait une lumière partout, tout le temps, parce que c'est ce qui les rassure. Vous êtes déjà comme ça? Il y en a, ils vont dire, c'est même pas les enfants. Moi aussi, je dors avec une veilleuse. Et alors, c'est quoi? Il n'y a pas de jugement ici, tu fais ce que tu veux. Mais on dirait qu'il y a comme quelque chose où la lumière nous rassure. Et puis, c'est certain. On va regarder ensemble, parce que la parole de Dieu est une lumière sur notre sentier, mais elle sert à quoi? Elle est une lampe à nos pieds pour qu'on puisse marcher. Mais marcher où? Pourquoi? À quoi ça sert? En fait, ici, notre but commun, chacun ici d'entre vous, que vous soyez chrétien depuis longue date ou que vous venez d'arriver et puis vous dites, j'ai encore plein de questions sur la foi. Notre but dans la vie, c'est de réussir ce qu'on fait, vrai ou pas. Si vous êtes en couple, vous essayez de faire fonctionner votre couple. Et si vous êtes marié avec vos enfants, vous essayez d'avoir une famille en santé, une entreprise. Il n'y a personne qui se lève un matin en disant, je vais tout scraper aujourd'hui. Ouais, j'ai vraiment envie. Non. Ou alors, il faut, t'es à la bonne place. Si tu veux tout scraper, on va prêcher avec toi que non, il y a un espoir, il y a une bonne nouvelle. Mais chaque personne veut réussir dans ses entreprises. Et la parole de Dieu nous dit que lorsque quelqu'un s'attarde à lire, à comprendre et à mettre en pratique la parole de Dieu dans sa vie, les choses de sa vie prennent place. Il y a des fruits qui portent. Ça ne veut pas dire que sa vie est parfaite et tout ce qu'il va toucher va fleurir comme Midas un petit peu dans la mythologie. Il touche et ça devient de l'or. Non. Ce n'est pas de la superstition, mais il y a des principes de vie que spirituellement, quand on met cette parole-là en pratique, nos vies fleurissent. Combien peuvent dire « Amen » si vous avez vu votre vie fleurir grâce au principe de la parole de Dieu? Le psaume 1, verset 1, ça commence, le livre des psaumes, commence en disant « Heureux l'homme ou la femme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. » Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Le désir de chacun, c'est que nous puissions vivre une vie comme ça. Mais il y a des principes que nous devons comprendre de la parole de Dieu. Et je crois réellement, et c'est vraiment, je pense, un message pour nous aujourd'hui. N'éteins pas la lumière. Tu as la lumière chez toi, tu as la lumière sur ta table de chevet, tu as la lumière peut-être dans une étagère quelque part, ou même peut-être dans ta poche, parce que maintenant, avec toutes les applications qu'on a, la lumière est partout. Par contre, l'interrupteur, souvent, reste baissé. Et alors que des fois, on cherche partout, « Seigneur, parle-moi, montre-moi. » Dieu veut parler, Dieu veut te montrer le chemin, mais tu n'allumes pas la lumière. Dieu dit, ça pourrait être tellement simple. Quand tu es dans le noir, vous avez déjà essayé de... Des fois, je rentre le soir tard après une pratique. Sophie est déjà couchée. Puis là, j'essaye de faire vraiment l'espion. Là, tu sais. Je me mets dans la peau de 007. Là. J'essaye de faire le moins de bruit. J'ai l'impression que tout est en travers de ma route. Le gros camion pas de patrouille qui fait... Non. Et comme je n'ai pas mon sel, parce que là aussi, je n'ai pas prévu une plug, donc en fait, je n'ai plus de light. Donc, ce qui fait que je suis dans le noir en train d'essayer... Et je suis chez moi pourtant. Hein. Mais j'ai l'impression que... Tout ce que je ne veux pas qu'il arrive, m'arrive. Ça vous est déjà arrivé? On dirait qu'il y a un complot spirituel contre moi quand j'arrive. T'sais. J'essaye juste de me faxer dans le lit, puis j'ai l'impression que tout fait... Non, c'est comme... Et je réveille toute la maison. Pourtant, je suis quelqu'un de discret, j'ai ça. Mais quand tu es dans le noir, tu ne vois rien. Même si tu connais bien les choses, même si tu penses que tu connais ton chemin, il y a toujours des embûches. La lumière nous montre, voici là où tu dois aller. Voici ce que tu dois éviter. Et je crois réellement qu'en ce moment, alors qu'on va commencer une série justement sur les temps de la fin, où la parole nous révèle des choses, des principes, chaque chrétien a une mission de comprendre, de connaître, de mettre en pratique et de vivre la parole de Dieu. Combien sont reconnaissants pour la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu pour la Bible, les principes, les lois, les commandements qu'il nous donne? Si tu veux voir clair dans ta vie, lis, comprends et mets en pratique la parole de Dieu. La parole de Dieu nous aide à trois choses, et on va regarder aujourd'hui. Elle nous aide à comprendre Dieu, à apprendre comment marcher. Et la parole de Dieu veut nous surprendre. Ça, c'est la partie qui aujourd'hui vraiment peut se révéler à quelqu'un qui ne connaît pas encore la parole de Dieu. Comprendre, premier point, qui est Dieu? La parole de Dieu nous aide à comprendre qui est Dieu. Dieu n'est pas un Dieu lointain qui a juste décidé de créer quelque chose et puis allez, on roule ça et puis maintenant c'est fini, on se revoit à la fin. Non, pas du tout. Dieu nous a donné ses principes pour que nous puissions comprendre qui il est, sa pensée. Bien sûr, Dieu est infini et immesurable, c'est-à-dire que personne ne pourra sonder sa pensée, sa connaissance, mais il a décidé de se révéler. Amen. Merci Seigneur, parce que quelqu'un qui crée quelque chose, c'est une extension de son amour. Critique la peinture d'un peintre, tu vas voir, il va le prendre personnel tout de suite. Ah, j'aime pas trop les couleurs. Quoi? Oui, c'est exactement mes émotions que j'ai mis. C'est comme si tu critiques sa création, tu critiques son œuvre, tu critiques lui-même. Dieu veut être en relation avec sa création. Comme des parents qui mettent au monde un enfant, leur désir c'est d'être en relation avec eux. Il y a un côté que Dieu est tellement parfait et il a décidé que notre création, que nous, les êtres humains, même si nous étions imparfaits, hyper limités, Dieu nous a dit « Je vais quand même vous donner le moyen de savoir qui je suis. » Et la plus grande chose que nous devons comprendre de Dieu, c'est qu'il nous aime. Il nous aime d'une manière infinie, il nous aime d'une manière incroyablement. Tu ne pourras jamais être autant aimé que par Dieu. Personne, même tes parents, même ta conjointe, ton conjoint, ne pourra pas t'aimer comme Dieu t'aime. Mais trop de monde, parfois, sans savoir... Demandez à un Québécois aujourd'hui dans la rue, si jamais Dieu existe, qu'est-ce que tu penses qu'il pense de moi? Oh, ben moi, je vais complètement... Le monde croit que Dieu l'a haï, que Dieu est en colère contre eux et qu'il veut juste les emmener en enfer, alors que c'est tout le contraire. Dieu est venu, il s'est incarné dans la personne de Jésus-Christ. Le Fils de Dieu est venu donner sa vie pour mourir, pour que chaque être humain, aussi pécheur soit-il, soit sauvé par grâce. Non pas grâce à eux, mais grâce à lui. Il a tout donné pour que nous puissions être avec lui. Et ça, c'est la bonne nouvelle que la parole de Dieu nous révèle. Et trop de fois, alors que Dieu nous donne cette lumière pour qu'on puisse comprendre, la lumière reste éteinte. Allumons la lumière, n'éteins pas, s'il te plaît, la lumière. La Bible nous montre combien Dieu est le Créateur, combien il nous aime, combien il est majestueux et tout-puissant, combien son intention envers nous est bonne, et n'est que bonté, fidélité, on l'a chanté tout à l'heure. Les promesses de Dieu sont contenues dans ce livre. Et si tu ne les connais pas, tu vas passer à côté de beaucoup de choses que Dieu veut te révéler, mais que tu vas passer à côté. La Bible est unique. Et pour ceux qui nous rejoignent, ils vont se dire, « Ok, mais la Bible est unique, mais en fait, la Bible est un livre spirituel comme tous les autres. » Et en fait, tous ceux qui clament avoir une religion, ben regarde, ils disent que leur Bible est unique, que leur livre est unique, et puis que c'est celui-là que c'est la parole de Dieu. Non, la Bible est unique réellement. Alors que j'ai étudié à l'ITF, il y avait des cours spécifiques sur la manière dont la Bible était, on regardait comment la Bible était fiable, la Bible au niveau archéologique. Chaque année, si vous suivez un petit peu les news pour cela, ça ne va pas être non plus dans le journal de Montréal, mais chaque année, il y a des découvertes archéologiques qui viennent encore plus prouver des séries, des choses que la Bible disait. Même que la Bible, des fois, est la seule à relater un mouvement historique dans certaines régions parce que c'était disgracieux pour les rois à l'époque, mais la Bible le dit. Et il n'y a jamais aucune autre preuve de ce récit. Et jusqu'à aujourd'hui, des fois, les athées disent, vous avez vu, la Bible dit ça, mais on n'a aucune preuve. Puis, je pense que c'était il y a 3 ou 4 ans, il y a une preuve exactement archéologique qui montrait que la Bible disait vrai. Parce que la Bible révèle des choses que Dieu a voulu nous donner. Il n'y a aucun mot dans cette Bible qui est là par hasard. Non, Dieu a vraiment voulu se révéler à travers sa parole. Elle est unique, inspirée par Dieu, mais écrite par des êtres humains. Non, elle n'est pas descendue du ciel comme ça. Waouh, super, merci. En français courant, parfait, c'était exactement ce que j'avais besoin. Non. La Bible a été écrite en 3 langages différents, en hébreu, en araméen et en grec, le Nouveau Testament. Donc, majoritairement l'hébreu dans l'Ancien Testament et le grec dans le Nouveau Testament. Et elle a été écrite sur une période de 1500 ans. Okay? Ce n'est pas une personne qui s'est donné un mois pour écrire un best-seller. Il s'est dit, non, parce que la Bible est le best-seller depuis toujours, jamais égalé. Je lisais les statistiques qui disent que la Bible est le livre le plus acheté, le plus vendu dans le monde. Mais parfois, je vais à la bibliothèque de ma ville, je demande une Bible, ils ne peuvent pas m'en trouver une. Je vous le dis. La bibliothèque peut remplir mon cerveau, mais seule la Bible peut remplir mon cœur. Puis des fois, je me dis, il y a beaucoup de beaux ouvrages, la poésie, c'est génial, mais par contre, la parole de Dieu, c'est la vérité, mais dans nos bibliothèques aujourd'hui, ben, on a de la peine à en trouver. Par contre, on peut, par exemple, trouver tous les autres livres religieux. Mais on dirait que la Bible donne un côté de... Les gens vont s'éloigner. Je sais qu'il y a un Québec qui a vécu tellement d'atrocités au nom de Dieu, au nom de la Bible, au nom des gens qui devaient représenter Dieu et qui ont fait complètement, des fois, le contraire. Mais Seigneur, donne-nous de re-représenter Dieu de la bonne manière. Donne-nous de revenir à la base, non pas aux traditions, non pas aux cultures, non pas « oui, j'ai entendu un jour que quelqu'un a dit ». Non, non, non. Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce qu'il a dit par sa loi, par ses prophètes, par le Nouveau Testament? Parce que la parole de Dieu est vivante et elle veut donner la vie encore aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut acclamer notre Dieu et être reconnaissant pour la parole? La Bible a été écrite sur une période de 1500 ans, sur 3 continents différents, par plus de 40 auteurs différents. Mais ce qui est incroyable, c'est que la Bible est unie, c'est 66 livres, ok? 66 livres en un. C'est une compilation de livres, de lettres. Certaines, c'est quelques pages, d'autres, c'est quasiment des volumes. La Bible est unique dans sa continuité. Dans ces 66 livres ont été rédigés sur une période de 1500 ans par plus de 40 auteurs différents. Et bien qu'elle soit écrite dans une période aussi longue, elle représente une unité parfaite. Les auteurs ne se connaissaient pas les uns les autres, ils ont été juste 1500 ans, mais il y a un fil conducteur. Le fil conducteur, c'est la croix de Jésus-Christ. Partout, ça pointe. Du premier verset jusqu'au dernier, ça pointe vers Jésus-Christ. Il y a comme le summum de tout, c'était la rédemption de l'humanité. La Bible nous explique comment Dieu, dans son plan, a voulu nous sauver et il a tout donné par le nom de Jésus-Christ à la croix pour que dans sa mort, il nous donne sa vie et par sa résurrection, nous ayons l'espoir d'une vie éternelle. Et tout pointe, chaque chapitre, et je vous le dis, je l'ai étudié depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, je l'étudie, mais en tout cas, je la lis et puis maintenant, je la comprends de plus en plus, c'est incroyable, c'est un trésor que je découvre de plus en plus. Et chaque fois que je lis, ça me rappelle combien Dieu est grand. Et je veux vraiment qu'on soit réveillés. Et aujourd'hui, si j'ai un objectif, c'est que demain, vous puissiez prendre votre Bible en disant, je vais me remettre à un plan de lecture, je vais me remettre à lire avec mon épouse, je vais me remettre à questionner, parce qu'il y a plein de choses que je ne comprends pas, mais je ne veux pas laisser mes interrogations me couper de ce que Dieu veut pour moi. Allume la lumière. Dis à quelqu'un à côté de toi, allume la lumière. Ces auteurs venaient tous d'arrière-plans différents, même parfois opposés. Moïse était un leader politique. David était un roi, Amos était un berger, Josué un général militaire, Néhémie un échanson du roi, Daniel un premier ministre, Luc un médecin, Paul un rabbin. Ils ont tous écrit à des endroits différents, dans un désert, en prison, dans un palais ou même en exil. Prends juste des fois la saison de Lost. J'ai suivi Lost une bonne partie de ma vie et je vous le dis, des fois il y avait des bouts, tu ne savais même plus. C'était le même scénariste, les mêmes auteurs, les mêmes acteurs, mais on dirait que des fois... Tu comprends rien, ça ne marche pas. La parole de Dieu, c'est des auteurs différents sur 1500 ans et il y a un fil conducteur. C'est pour ça que ça se retrouve dans le canon biblique. Nous pouvons croire que la parole est complètement inspirée de Dieu, comme le dit Paul à Timothée. Toute écriture est inspirée de Dieu. C'est pour ça que notre foi et l'autorité de ce que nous croyons se trouvent dans ce livre. Imaginez si nous n'avions pas de cadre. Nous ne pourrions pas comprendre Dieu. Chacun irait avec « je pense que ». J'ai cru que, j'ai rêvé que, attends, je vais te donner une prophétie. Imaginez si nous n'avions pas de cadre qui venait sceller et protéger ça. Tout le monde irait avec sa théologie. Ce qui parfois même en ce moment, ça s'en va. Chaque personne a une chaîne YouTube et puis chaque personne prêche un évangile des fois différent. C'est pour ça que nous devons tous la connaître pour pouvoir vérifier si ce qu'il dit est vrai ou pas. Nous devons connaître ce qui est prêché parce que la prédication de la parole est une puissance. Et elle doit rester une puissance. Elle ne doit jamais devenir une folie entre les mains de gens qui veulent manipuler, qui veulent se servir de Dieu pour leur fin. Il faut vraiment que nous puissions, en tant que chrétiens, connaître, comprendre et mettre en pratique la parole. Combien disent Amen. La parole nous donne de comprendre, elle nous explique le plan de Dieu pour sauver l'humanité. Il n'y a pas de hasard dans la parole de Dieu. Et alors que je regardais ça, je me disais, mais de comprendre la parole, c'est tellement incroyable. En fait, oui, c'est un travail de chaque jour. Mais comme j'aime la citation qui dit « Là où la parole de Dieu aura sa place, l'ignorance cédera la place. » Il y a quelque chose que, au plus tu mets la parole de Dieu au centre de ta vie, Au plus, tout ce que tu ne comprends pas ou qui est flou va petit à petit devenir clair. Comme quand tu marches avec une lumière, tu vois de plus en plus, OK, c'est là où je dois aller, c'est là où je ne dois pas aller. Il y a des pièges que je dois éviter et il y a un chemin dans lequel je dois aller. Mais pour quelqu'un en ce moment qui lit la parole et qui dit, mais regarde, je l'ai lu depuis plusieurs années entières, mais là, je peux quasiment la citer complètement. Des fois, je crois que nous avons besoin d'avoir une nouvelle vision sur la parole de Dieu. Combien de fois ça vous est arrivé de lire un passage que ça faisait 10 000 fois que vous avez lu et qu'à un moment donné, paf, ça revient comme hey, « j'avais jamais vu ce détail-là ». Combien de fois ça vous est arrivé? Je prie que ça nous arrive de plus en plus. Parce que si tu as déjà lu la Bible, c'est pas juste « ah ben je l'ai lu une fois, c'est bon pour ma vie ». Non, il faut que chaque jour nous puissions passer du temps dans la parole de Dieu. Rafraîchir notre vision. J'ai ri parce que j'ai lu un article cette semaine, c'est vraiment incroyable. Il y a une femme de 67 ans qui avait la vision un petit peu floue, elle voyait sa vision baisser. Alors elle a été chez l'ophtalmo. Et alors qu'elle pensait avoir un problème avec la cataracte, on va voir la photo, ce n'était en fait qu'une accumulation de 27 lentilles de contact. Oui, désolé, je vous ai mis juste les lentilles de contact, je ne vous ai pas mis l'œil avec là. Mais c'est comme, la dame, je pense qu'elle n'a pas lu la notice, malheureusement, elle n'a pas allumé la lumière, elle a comme mis les lentilles de contact et puis chaque jour, elle en remettait d'autres sur les lentilles de contact. Donc, malheureusement, à un moment donné, elle se dit, j'ai comme un problème de vision, c'est un petit peu embué. Et là, ils ont commencé à retirer 10 et ils ont vu qu'il en restait 27 lentilles de contact les unes à côté des autres. Ça me faisait rire en même temps, je me disais, combien de fois, en tant que chrétien, on entend un message sur un passage, on lit, on entend quelque chose, on entend. Et là, on met des informations au-dessus des informations, au-dessus des informations, mais sans aucune révélation. Des fois, on ne fait juste qu'accumuler des informations sur la parole de Dieu. On lit les textes et puis on dit « Ouais, je le connais. Oh, je le connais même dans différentes traductions de la Bible. Oh, ouais, ouais, des fois, Louis II, puis des fois, je vais à Semeur. Ouais, mais est-ce qu'il y a une révélation de la parole de Dieu ?» Aujourd'hui, je te dirais, enlève tout ça, lis moins, mais lis mieux. Toute la semaine, j'ai médité sur un verset. « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » J'ai dit, c'est tellement simple, mais c'est tellement puissant. Parce qu'il y a quelque chose dans la parole de Dieu n'est pas juste des mots écrits, c'est la parole que Dieu donne, elle est vivante. Et quand tu les lis, c'est elle qui vient te lire, c'est elle qui vient te confronter, c'est elle qui vient te montrer qui tu es devant Dieu et combien Dieu est grand. C'est pour ça qu'elle est puissante, c'est pour ça que je veux vraiment que quelqu'un, il ait le mensonge brisé de croire que c'est juste un vieux livre, puis je ne le comprends pas, c'est difficile, puis des fois là c'est tellement contextuel. Oui, mais si tu comprends ça, tu comprends tout. Trop de chrétiens, parfois, manquent une saison de leur vie et ils reviennent ensuite en disant, ben, regarde, c'était juste écrit dans la parole, puis je ne l'avais juste pas vu. Je ne veux mettre aucune condamnation sur quelqu'un, mais juste donner l'espoir qu'aujourd'hui, peu importe tout ce que tu as vécu avant, tu peux revenir, qu'on t'enlève toutes ces informations-là et que Dieu te donne une nouvelle révélation de la parole de Dieu pour que tu puisses marcher en pleine liberté, en pleine vérité, en pleine gloire, en pleine joie, non plus dans l'oppression ou la condamnation, mais dans la liberté et dans la joie. Combien savent que la parole de Dieu est la joie? C'est elle qui nous donne de savoir comment avancer. La deuxième chose que la parole de Dieu fait, c'est qu'elle veut nous apprendre. Elle veut nous apprendre à avancer mieux dans notre vie spirituelle, mais aussi dans notre vie de partout. La parole de Dieu est un manuel incroyable. Dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu donnait des fois des règles au peuple d'Israël, mais c'était des règles sanitaires, c'était des règles humanitaires, c'était des règles où ça régissait pas seulement le côté spirituel dans le sens où voici comment vous allez m'adorer. Non, il y avait également des règles que tu voyais que c'était au niveau de la vie sociale, au niveau de la vie maritale, au niveau de voici les conflits, tout ça. Dieu est intéressé à tout ce que tu vis, même si tu penses que c'est le plus terre à terre des choses. Parce que la parole de Dieu est un manuel incroyable pour nous aider à marcher dans la prospérité, c'est-à-dire dans chaque domaine de notre vie, Dieu, par sa parole, veut que nos mariages fonctionnent, veut que les relations avec tes parents fonctionnent, veut que si jamais tu as un conflit avec tes voisins, mais que dans le pardon et dans la réconciliation, Dieu veut te donner la prospérité dans tous les domaines de ta vie. Combien disent amen? On parle prospérité, tout de suite, les gens voient le cash. Non! Je vous le dis, il y a des gens bien plus pauvres que nous qui mettent en place la parole de Dieu, qui sont bien plus riches spirituellement que nous. Il y a des gens qui ont des millions dans le compte en banque, mais qui ne savent pas ce qui est les principes de la parole de Dieu. Ils sont pauvres, pauvres dans leur famille, pauvres dans leur couple, pauvres dans leur bonheur, parce que la parole de Dieu vient nous remplir, nous combler, elle vient nous guider, elle vient nous montrer, voici comment tu dois avancer dans chaque pas. Le psaume 119, justement, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Le terme « lampe », c'est dans l'hébreu, c'est « nir », ok? Et c'est littéralement une bougie, une chandelle, une petite lumière. Puis là, moi, j'étais comme, « Seigneur, on le voit, ça, c'était comme une lampe à huile d'antan. Il y avait de l'huile d'olive, puis il y avait une petite mèche, et puis c'était comme ça que les gens étaient éclairés chez eux. Mais j'étais comme, « Non, Seigneur, ta parole, ça doit être un phare. » Alors, j'essaie de trouver comme, « Seigneur, est-ce qu'il y a une partie dans la parole où tu dis que ta lampe, la lumière est comme une grosse lumière, un soleil ?» Mais en fait, non. La parole de Dieu, quand on dit que c'est une lampe, c'est une petite lumière. Mais alors que j'étudiais ce texte, je vous le dis, je l'ai étudié, hein, un petit verset, mais en fait, c'était intéressant parce que dans le temps, et voici ce qu'un commentateur dit, « N'ayant pas de lampe fixe dans les villes orientales à l'époque, chaque passager devait porter avec lui une lanterne pour ne pas tomber dans un ravin ou trébucher sur des tas d'ordures qui souillaient la route. Alors qu'il fait sombre autour de lui, la personne, il n'y avait pas des lampadaires comme aujourd'hui dans nos villes industrialisées. Non, chaque personne devait marcher avec une lanterne, avec une petite lampe ou avec une torche pour qu'elle éclaire son chemin. Mais ça n'éclairait pas toute la rue jusqu'au bout de son chemin. Non, ça lui permettait de pas après pas voir, ok, je peux aller là. Non, je ne peux pas aller là. Je ne peux pas aller là. La parole de Dieu n'est pas un phare qui te montre, voici toute ta vie. Tu as juste à le lire une fois et puis, non. La parole de Dieu, c'est la lumière que tu as besoin pour aujourd'hui. Et ça sera la lumière que tu auras besoin pour demain. Et ça sera la lumière que tu auras besoin pour demain. Et à un moment donné, wow, il y a une situation difficile. Mais la lumière, tu vas l'allumer. Puis, wow, ok, je vois maintenant. Combien de fois j'ai été confronté dans mon attitude alors que je pensais comme, ouais, non, mais j'ai le droit d'être en colère. Puis je vais dans la parole de Dieu. Puis non, le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi, c'est la douceur, c'est la paix, c'est la joie. Ok, Seigneur. Là, Dieu était en train de mettre la lumière en moi en disant, gars, ça te montre là où tu marches. Et en ce moment, tu n'es pas dans un bon chemin. Combien de fois nous avons besoin de lire la parole de Dieu, en fait, chaque jour? Vous savez quel est le verset le plus important de la parole de Dieu? C'est celui que tu lis aujourd'hui. Et c'est celui que tu liras demain. Parce que Dieu veut se révéler à toi chaque jour. Il veut t'apprendre. Il veut te montrer comment tu peux avancer. Un pas à la fois, chaque jour, le pain quotidien. Le pain qui est donné aujourd'hui est suffisant pour aujourd'hui, mais tu devras y aller demain. Il y en a des fois, ils viennent à l'église, ils pensent lire tous les versets qui sont là, et puis, ok, j'emmagasine ça pour toute la semaine, c'est parfait. Non, Dieu te dit, ça c'est bon pour aujourd'hui, mais demain, va dans la présence de Dieu, ouvre ta Bible, prie, et prie vraiment. Moi, je prie à chaque fois que j'ouvre la Bible, Seigneur, inspire-moi, montre-moi, où illumine mes yeux pour que je puisse comprendre ta parole. Et le Saint-Esprit de Dieu, il n'y a qu'une volonté, c'est de révéler Christ au travers de la parole. Alors il nous montre, il nous ouvre les yeux pour qu'on puisse comprendre son plan. Combien sont reconnaissants pour un Dieu qui prend soin de nous pas après pas, chaque jour le pain quotidien. La lumière nous montre les limites. Et puis, des fois, je parle avec des gens et puis ils disent, ouais, mais la Bible, c'est un petit peu comme, c'est tac-tac. Qu'est-ce que tu veux dire, tac-tac? Ouais, il y a beaucoup d'obligations, des fois il y a des interdictions, tu sais, c'est des commandements, c'est des voici, c'est des ça. Combien sont reconnaissants pour un code de la route qui fonctionne au Québec? Non, mais il n'y a pas de promesse de, oh, si tu roules bien pendant 10 ans, tu seras millionnaire. Il n'y a pas ça dans le code de la route. Par contre, personne ne se pose la question en disant, ouais, mais si on enlevait le code de la route, sérieusement là, okay, ça serait vraiment mieux là, tu sais. Tout le monde ferait comme on veut, liberté, je le file comme ça aujourd'hui, je le file à droite aujourd'hui, ben on va à droite. Je t'aime pas, ben je te fonce dedans. Mais c'est quoi? Non mais vivons selon nos instincts, tu sais, c'est comme, non mais vraiment, tu sais, on n'a pas besoin de tac-tac, règlement. On a besoin de ça, surtout nous les êtres humains. Parce que si je suis mes feelings, ça va mal. Ça va mal pour moi, ça va mal pour tout. Et Dieu le savait tellement qu'il nous a protégés. Il nous a dit, je vais donner des commandements, je vais vous donner des choses. Et oui, je ne vous dis pas, oui, revenons à vivre sous la loi, sous les choses. Non. Mais par contre, vivons sous la grâce, mais comprenons les principes de l'ancienne alliance. Parce que toute parole est inspirée. Dieu n'a pas dit, une fois que Jésus est arrivé, brûlez tous les manuscrits de l'Ancien Testament. Non. Ça, c'était l'ombre des choses à venir. Mais quand les choses arrivent, elles nous éclairent, elles nous aident à comprendre ce qui a été écrit dans l'ancien temps. Donc la parole de Dieu n'est pas quelque chose pour nous empêcher de profiter de la vie, au contraire. Elle nous permet de vivre des mariages fleurissants, alors que la société dit, garde, c'est même pas grave, t'as une de perdue, 10 de retrouvée, fais ce que tu veux, vis ta vie. Dieu dit, non, regarde, intégrité, fidélité, pureté, et peu importe la situation qui vit, fais ça et ta vie fleurira. Et ça, c'est la parole de Dieu. Oui, elle est contre-culturelle, mais c'est la vérité, et la vérité nous rend libres. Et c'est le péché qui nous rend esclaves. La vérité nous révèle à nous Cette semaine, j'étais frappé parce que alors que je priais pour mon message, je me disais, Seigneur, donne-moi une illustration pour qu'on puisse comprendre. Et quand je priais, il y a eu pop, la presse. Trigone vient de perdre toutes ses licences de construction. Trigone, j'ai habité dans un condo Trigone. Je sais, c'est un des plus gros constructeurs de condos, de maisons. C'est vraiment énorme. Mais cette semaine, ils ont perdu toutes leurs licences. Pourquoi? Le bureau des régisseurs de la RBQ leur reproche d'avoir contourné les règles par divers stratagèmes. Ils n'ont pas suivi les règles. Ils ont pris des chemins pour leur gain à eux qui mettaient en risque beaucoup de personnes, ce qui fait que la loi leur a dit « vous avez tout perdu ». Combien de chrétiens aujourd'hui pensent bâtir quelque chose d'incroyable, une puissance, quelque chose de « waouh, regarde, on est reconnu, regarde, ça fleurit ». Non, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de feuilles que c'est enraciné, parce que d'un jour à l'autre, on peut tout retirer. Parce que si tu ne bâtis pas ta vie sur la parole de Dieu, tu la bâtis sur du sable. Mais par contre, celui qui bâtit sa vie sur la parole de Dieu, il construit sur du roc. Et ça tient. Et ça, c'est solide. Et peu importe les tempêtes, la parole de Dieu nous garde comme une ancre. Combien peuvent dire amen et applaudir notre Dieu qui nous donne une puissance dans la parole de Dieu? La Bible nous éclaire, elle éclaire notre sentier, elle nous évite les pièges. 2 Timothée 3,16 dit « Toute écriture est inspirée de Dieu. Pourquoi ? Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. » Merci Seigneur pour la correction que tu nous fais. Parce que qui serions-nous si Dieu nous laissait aller à notre propre vie? Non, il nous corrige comme un bon père qui dit « Non, 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 va pas là, ne traverse pas la route sans regarder. » Il nous corrige pour nous dire « Fais attention, parce que si tu ne fais pas attention, tu vas mourir. » Le péché est tellement vicieux qu'il va arriver et il va t'emmener à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. La parole de Dieu nous révèle combien Dieu veut notre bien. Alors allume la lumière. Ne la laisse pas éteinte à côté de ton lit le soir. Allume la lumière le matin pour dire, Seigneur, je te prie pour qu'aujourd'hui, tu puisses me montrer où avancer. J'ai des meetings à la job, j'ai des confrontations à faire, j'ai plein de choses à faire, c'est difficile, mais Seigneur, révèle-toi à moi. Cette semaine, alors que je parlais avec quelqu'un qui se pose des questions sur le ministère, il me dit, j'ai plein d'avenues devant moi, je suis jeune, je pourrais aller dans telle chose, j'ai été accepté là, j'ai tel talent, je pourrais faire ça. J'ai 4 ou 5 choix de carrière devant moi, mais j'ai l'impression que Dieu m'appelle au ministère. Qu'est-ce que tu en penses, Ben? Ok, attends, on va prier un petit peu. Je parle avec lui, puis on essaie de discerner la voix de Dieu, puis à un moment donné, il me dit, mais c'était fou parce que alors que je regarde un petit peu toutes les avenues florissantes de ma vie où je peux gagner gros, il me dit, j'ai lu dans la parole ce matin, ne vous souciez de rien, Dieu prendra soin, puis les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, mais votre Père prend soin d'eux. Faites pas attention à ce que vous allez mettre sur le dos ou aller manger, votre Père sait mieux que vous. Je dis comme, c'est pas mal clair là, tu sais. Je ne veux pas me mouiller, mais je pense que là, Dieu est en train de te dire quelque chose. Et puis, il m'en parlait, il me posait la question, mais il était déjà convaincu à l'intérieur de son cœur. Il dit, je l'ai lu, mais j'ai comme besoin de confirmation. Mais la parole de Dieu est une confirmation. Tu sens que tu as un rêve de la part de Dieu, lis ça, et la parole de Dieu va te confirmer ou va te corriger. Beaucoup de personnes ont cru que c'était des rêves qui venaient de Dieu, et puis la parole leur dit non, c'est complètement pas ça. Ça, c'est le mensonge que l'ennemi essaye de te mentir. La parole nous révèle le plan de Dieu pour nos vies. Alors nous devons la voir, elle est pour convaincre, enseigner, corriger, instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. La Bible te tiendra loin du péché ou le péché te tiendra loin de ta Bible. Aujourd'hui, je veux vraiment confronter quelqu'un qui pense et qui croit le mensonge que parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas ouvert, parce que ma vie en ce moment n'est pas très clean, mais je ne peux pas l'ouvrir, ça serait un manque de respect envers Dieu. Non, parce que tu es malade et parce que tu perds beaucoup de sang, tu dois te rendre à l'hôpital. Parce que tu as besoin d'un docteur, parce que tu as besoin d'un médecin. Et Dieu te dit, je t'ai donné des principes ici, viens dans ma présence, lis et mon Saint-Esprit va te donner les yeux ouverts pour que tu comprennes qu'est-ce qu'il faut mettre. C'est comme un pansement sur ta plaie. C'est comme quelque chose qui va confronter, qui va enlever tout le mal que tu penses et qui va te donner l'espoir. Parce que la bonne nouvelle de la parole de Dieu, c'est la grâce de Jésus. Quand Dieu te regarde, il sourit et il dit, reviens dans ma maison, reviens à la maison, reviens dans mes bras. Je suis heureux de te voir revenir. Juste la volonté de dire, est-ce que je pourrais revenir à Dieu? Dieu dit, oui, cours, cours. Et il court devant toi, comme le père du fils prodigue. Il faut que nous comprenions, que nous sachions distinguer, comprendre, lire, méditer et mettre en pratique la parole de Dieu. Ce n'est pas réservé aux pasteurs. Réellement, je ne peux pas être la lumière dans votre vie à chaque jour. Déjà, j'essaye de l'être pour moi-même, là, mais heureusement que c'est la parole de Dieu. Mais la parole m'aide moi chaque jour à marcher. Elle doit être la priorité dans votre temps de prière chaque jour. Seigneur, par la prière, je te parle, mais par ta parole, tu me parles. Et par la méditation, il y a comme quelque chose que je comprends et qui me travaille. Par la louange, je te remercie. Il y a quelque chose de fort quand tu prends 15, 20 minutes. Si je peux plaider pour que vous puissiez prendre 20 minutes par jour pour vous connecter à Dieu, ça pourrait changer le jour de la manière de vivre votre journée, des attitudes que vous avez, des tentations que vous avez. La parole de Dieu viendrait confronter les choses. Combien veulent prendre un défi de dire, OK, je veux mettre dans les 7 prochains jours un temps à part pour lire la parole de Dieu? Est-ce que je peux voir des mains se lever par la foi? Yes! Et je crois que par le Facebook, on a un groupe Facebook fermé, Nouvelle Vie La Prairie, si vous n'êtes pas encore abonné, venez. On va lancer à partir de demain, je me mets comme défi, on va trouver un plan de lecture de 7 jours, puis on va le faire ensemble, et puis on va en discuter. Si vous avez des questions, on va être là. Parce qu'il faut qu'on grandisse dans la connaissance de la parole de Dieu, parce que si c'est un trésor, nous ne pouvons pas rester assis dessus. Il y a une photo qui arrive. Un pêcheur philippin a gardé sous son lit pendant 10 ans la plus grosse perle du monde, valant plus de 100 millions de dollars, pesant plus de 34 kilos. N'ayant aucune idée de sa valeur, il l'avait mise sous son lit pour lui porter chance. Là encore, moi je regarde l'actualité, ça me fait rire, mais je me dis, mais combien de chrétiens ont leur Bible en dessous de leur lit pour leur porter chance comme une superstition? Oh, c'est la Bible de ma grand-mère, je pense qu'elle doit être spéciale. Mais non, elle n'est pas spéciale tant que tu ne l'ouvres pas. Ce n'est pas la poussière qui s'accumule dessus qui va lui rendre vraiment magique, non. Mais le jour où tu vas l'ouvrir, comme lui, il va se dire comme, oh, j'ai perdu 10 ans de ma vie, j'aurais pu être millionnaire, 100 millions de dollars. Je ne sais pas s'il les a touchés ou si l'État les a pris en disant merci, c'est le patrimoine de l'UNESCO. Mais j'en sais rien, mais en tout cas, on en parle quand même de lui aujourd'hui. Je ne connais pas son nom, mais bref. Il y a comme quelque chose que, est-ce qu'en ce moment, en dessous de ton lit, il y a un trésor qui dort parce que tu n'as aucune idée de sa valeur, alors que Dieu te dit, ça c'est la parole que je t'ai donnée. Elle est plus puissante qu'une épée à deux tranchants pour aller couper, pour aller voir, pour aller montrer dans ton âme que même toi, tu ne connais pas le désir de Dieu et le désir du mal. Dieu veut, par sa parole, te montrer qu'il est là pour toi. N'éteins pas la lumière. Quand je n'avais pas envie de la lire, j'ai entendu cette phrase, elle m'a vraiment frappé. Ceux qui ne lisent pas n'ont aucun avantage sur ceux qui ne savent pas lire. C'est fort. Combien de millions d'enfants aujourd'hui aimeraient juste ça, pouvoir venir à l'école? Puis des fois, je le rappelle à mon fils. Hey, il y en a qui aimeraient apprendre ta place. Puis il me dit, bah, qu'ils l'apprennent. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est comme, non, il faut que tu comprennes. Mais je ne sais pas si vous avez déjà vu une vidéo de chrétiens chinois qui vivent là en n'ayant aucune librairie où ils peuvent aller acheter une Bible. Là-bas, tu n'en trouves nulle part, même dans les églises. C'est tellement rare. Puis il y a un missionnaire, un jour, qui filmait ça avec son cellulaire. Il ouvre un paquet où il y avait plein de Bibles et tous les Chinois chrétiens qui se disent, oh, ils prennent la Bible, ils la serrent, ils l'embrassent comme si que, le trésor, on l'a. Combien d'années on a perdu? Combien de situations on n'a pas pu être victorieux parce qu'on n'a pas ouvert le trésor. Les patriarches de l'Ancien Testament nous enviraient d'avoir toute la connaissance de cette parole. Quand David parle ta loi, et David parle juste de la Torah que les Juifs lisaient, les 5 premiers livres de la Torah, c'est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et il les apprenait par cœur. Puis là-dedans, il se disait, waouh, ça c'est la révélation de Dieu. Nous avons tout le canon, les évangiles, la vie de Jésus, les paroles de Jésus, les miracles de Jésus, les épîtres qui nous montrent comment Dieu continue aujourd'hui de parler. Mais parfois, ce trésor-là, il est dans notre... Ça pourrait changer le Québec si chaque chrétien lisait la parole et la priait. Vraiment, je crois. Ça pourrait changer nos familles. Et je veux qu'on puisse comprendre, Seigneur, tu nous as donné un cadeau, aide-nous à en prendre soin. Aide-nous à le déballer chaque jour comme disant, waouh, tu vas me révéler quelque chose de nouveau. Parce que mon troisième point, c'est que la parole de Dieu va nous surprendre. Dieu veut te parler personnellement par sa parole. Pour chaque situation que tu vis, il y a un principe de la parole de Dieu qui doit être révélé. Celui qui ne connaît pas la parole peut être vraiment surpris par la parole de Dieu, peut l'ouvrir et peut dire, waouh, il y a quelque chose de fort. Ou celui qui pense trop bien la connaître, Dieu veut te resurprendre à nouveau. En disant, relis ce livre que tu penses à chaque fois. Ouais, mais Lévitique, je ne comprends rien. Non, Dieu veut dire, hein, lis-le, et lis-le mieux. Étudie-le. Il y a plein de logiciels aujourd'hui gratuits. Il faut faire le tri quand même, là, mais sur Internet, il y a tellement de choses pour nous aider à lire en grec, en hébreu, des concordances, des commentaires bibliques, des choses. Si vous avez besoin, réellement, on peut vous donner des liens qui sont safe, sécuritaires dans le sens où, mais il y a des choses qui sont vraiment bonnes aujourd'hui, qui nous aident à apprendre, à étudier la parole. On ne doit pas juste la lire, on doit la comprendre. Trop de chrétiens la lisent sans la comprendre. Maintenant, c'est que trop de... il y en a qui la lisent, qui la comprennent, mais qui ne la mettent pas en pratique. Ça, c'est la troisième des choses. Il faut que tu dises, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me révéler aujourd'hui ? Hébreux 4, 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Qui peut faire ça ? Qui peut faire ça ici ? Personne. Même le meilleur des psychologues, des psychiatres, des psychothérapeutes ne pourra jamais sonder les choses. La parole de Dieu le fait. Quand tu la lis, c'est la parole de Dieu qui te lit et qui te montre « voici les choses que tu dois faire, voici les choses que tu dois changer ». Alors que j'invite les musiciens à revenir, j'entendais des témoignages des Gédéons. Vous savez, les Gédéons, c'est les personnes qui distribuent gratuitement des Nouveaux Testaments. Il y en a à la sortie des écoles parfois, il y en a dans les chambres d'hôtel, dans les hôpitaux. En fait, un petit peu partout dans le monde, c'est une organisation qui a but non lucratif, mais qui a des dons, qui achète des Nouveaux Testaments et qui les donne partout. Et il y a tellement de milliers de témoignages incroyables que les gens qui ne s'attendaient à rien ont ouvert l'Évangile et ont été complètement transformés. Et une des histoires qui m'a le plus frappé, j'étais adolescent, et puis vous allez comprendre pourquoi elle m'a frappé, c'est qu'alors qu'il y a un Gédéon qui était dans la rue, il a vu quelqu'un qui était assis à côté, je pense que c'était peut-être un itinérant, et puis il voyait, il cherchait quelque chose, il disait « Ah, est-ce que vous pouvez me donner de l'argent ?» Il me dit « Non, j'ai rien, mais j'ai juste une Bible. » Et il lui donne le Nouveau Testament, c'est une petite Bible, et puis il dit « Oh, c'est parfait, le papier, c'est exactement celui que j'ai besoin pour rouler mes joints. » Je vous le dis. Puis là, il avait déjà donné le Nouveau Testament, il n'avait pas dit « Non, rends-le-moi, un blasphème, non. » Il a dit « Gars, je pense inspiré de la présence de Dieu, il a dit « Gars, on va faire un deal. Chaque fois que tu vas déchirer une page pour la rouler, avant, tu vas la lire. » Le gars, il dit « Ok, c'est bon. » Tu sais, j'en ai beaucoup à fumer, donc c'est bon, tu sais, je vais prendre le temps. Je vous le dis, son témoignage est écrit, il parle par tout le monde parce que cette personne-là a ouvert, il a pris la première page qu'il a lue, il a vu l'amour, la grâce de Dieu, le pardon, d'être libéré de ses chaînes et il a dit non, j'ai plus besoin de ça, j'ai besoin de Jésus. Il a donné sa vie à Dieu alors qu'il n'a même pas fini le joint. Il n'a même pas roulé, il a lu et comment Dieu peut parler à travers sa parole. Combien sont reconnaissants pour Dieu qui parle à travers sa parole dans des situations vraiment spécifiques. Acte 2, 42. Les premiers chrétiens, après que Jésus soit parti, après que la Pentecôte soit arrivée, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Qu'est-ce que les apôtres enseignaient ? Les apôtres enseignaient la parole de Dieu. La parole de Dieu, à cette époque-là, il n'y avait pas tout le canon biblique. Ils avaient encore là la Torah, les 5 premiers livres. Ensuite, ils avaient les prophètes, ça. Mais les apôtres étaient en train d'expliquer non seulement à des gens qui ne connaissaient aucunement la religion juive, mais autant à des gens qui la connaissaient par cœur. Et les apôtres étaient en train de leur dire, voici, on va passer par chaque chapitre, chaque verset, et on va voir comment en fait, c'est Jésus, Jean 1, qui est la parole de Dieu, la parole incarnée, devenue chair. Et ils étaient en train de dire, nous avons eu la révélation que le Fils de Dieu est venu sauver l'humanité. Et nous allons regarder maintenant à comment la parole s'explique à travers la vie de Jésus. Et il lisait dans le jardin d'Éden, quand Dieu a comme pris un animal pour cacher le péché d'Adam et Ève. Ça venait faire référence directement au sacrifice de Christ qui vient couvrir notre péché. Puis là, ils étaient en train d'expliquer, voici, regardez dans Nombre, dans Deutéronome, voici, ben c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Donc autant ceux qui ne connaissaient rien étaient complètement surpris par la puissance de cette parole, autant ceux qui pensaient la connaître tellement trop qu'ils la citaient par cœur. Ils avaient une révélation de qui était la parole de Dieu, Christ, Jésus-Christ, et la parole incarnée, Jean 1, la parole faite chair pour nous donner la bonne nouvelle du royaume de Dieu, que Dieu nous aime tellement. Aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait se dire, Seigneur, peu importe comment je la lis, est-ce que je vais commencer à la lire ou est-ce que je vais reprendre ma lecture ? Seigneur, donne-moi de l'ouvrir en disant, je sais qu'aujourd'hui tu vas me parler parce que ton désir au travers de ta parole, c'est de me parler. Alors donne-moi de parler aujourd'hui, donne-moi d'avoir, de recevoir ce que tu veux pour moi aujourd'hui. La parole de Dieu transcende les cultures, les générations, les philosophies. Ça fait plus de 2000 ans que les évangiles sont écrits et que ça continue de changer l'humanité. Beaucoup d'historiens, beaucoup de personnes, même non-croyantes, disent si on n'avait pas eu les évangiles, on n'aurait pas eu les droits de l'homme, les droits des enfants, les droits des femmes, les droits de vote, les droits. On n'aurait rien eu de cette liberté. C'est les évangiles qui ont amené une scission à dire voici le monde comme il était, voici le monde maintenant. Il y a comme quelque chose de fort qu'on comprend que nous pouvons comprendre ce que Dieu veut pour nous, qui est la même chose qu'il y a 2000 ans et qui sera la même chose encore en 2000 ans si Jésus tarde sa venue. Ça transcende tout. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a des personnes qui doivent faire un pas de plus dans leur lecture. Il y en a qui doivent peut-être maintenant se dire « J'en connais tellement pas que j'ai besoin d'être accompagné. » Puis tu as besoin d'être accompagné dans un des groupes Nouvelle Vie, l'ABC de la foi, où on regarde pas après pas qu'est-ce que la prière, qu'est-ce que la Bible, qu'est-ce que la chose. Et on t'apprend à voir. C'est quasiment personnalisé. C'est un pour un. Ensuite, il y a des groupes croissance. Ensuite, il y a des groupes Nouvelle Vie qui, chaque semaine, reparlent du message, parlent entre eux, posent des questions. Et je suis content parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont dans des groupes. Maintenant, il y a des personnes ici qui se disent j'ai l'impression qu'il faut que j'aille encore plus profond. Tu as besoin peut-être de t'inscrire à l'ITF. Tu as besoin peut-être de faire le cours d'Ancien Testament qui m'a ouvert les yeux sur « Waouh, je pensais que c'était un vieux livre vraiment. » Non, 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 c'est tellement une parole incroyable. Tu as besoin de prendre des cours peut-être pour dire « Seigneur, s'il y a quelque chose que je dois apprendre de toi, je veux y aller. » Et l'aventure peut être incroyable parce que Dieu veut continuer de se révéler, non seulement à toi, mais à travers toi. Je termine. Alors qu'il y a un des pasteurs aux États-Unis, Craig Rochelle, que j'aime beaucoup, qui est l'un des créateurs de l'application Bible, Apple App, YouVersion, peut-être que vous l'avez sur votre cellulaire. Combien ont déjà lu? OK, wow. Il y a plus d'un milliard de téléchargements de cette application. Je pense que c'est dans le top 10 des applications partout. Mais voici son histoire. C'est que lui, pareil, à la sortie de l'école, l'université, il ne connaissait pas Dieu. Il disait qu'il vivait une vie vraiment très loin de Dieu. Et là, il y a quelqu'un des Gédéons qui lui tend un Nouveau Testament. Et il commence à le lire. Et alors qu'il le lit, il est touché par la grâce de Dieu. Exactement de la même manière que mon père à moi a donné sa vie en lisant l'évangile de Jean, en voyant l'amour de Dieu, en voyant que Dieu l'aimait tellement qu'il wow, il m'aime même si je suis pécheur. Ah, ok, ben je dois décharger mon péché et je dois venir à lui. Je dois lui demander pardon et il va me pardonner, c'est écrit. Et par la foi, je suis sauvé. Alors je veux juste dire, Seigneur, prends ma vie. Et là, ça a fait un impact incroyable dans sa vie. Et puis lui, il a commencé à se dire, Seigneur, j'ai un appel, non seulement à comprendre ma vie, la parole, mais aussi à l'enseigner. Et il est devenu un des pasteurs, un des plus influents, Life Church, qui a 38 campus autour des États-Unis, une église vraiment incroyable. Et ils ont créé, en 2011, je pense, l'application Bible App, qui maintenant bénit des milliards de personnes, littéralement, dans des pays où tu n'as pas le droit d'avoir une Bible, comme dans des pays où il y a de la persécution. C'est cette application-là, elle grandit de 200%. Chaque jour, les gens se disent, regarde, il y a une application pour lire la Bible dans différentes langues. Ça a été traduit dans des milliers de langues. Il y a quelque chose de fort parce qu'une personne lui a donné une Bible en disant, tiens, ça c'est la parole de Dieu. Et c'était le Nouveau Testament, il n'est pas encore la Bible au complet. Mais lui a dit, s'il y a les paroles de vie que Dieu veut pour moi, c'est certain que moi je vais venir et puis je vais dire, Seigneur, tes promesses sont vraies et moi je suis là devant toi et puis ma vie est vraiment brisée. Mais si je crois ce qui est écrit dans ce livre, c'est que ta grâce me restaure, que tu peux tout changer, que tu peux faire quelque chose de nouveau en moi. Et là où tu as ouvert un chemin, tu peux le continuer. Là où tu as bougé des montagnes, tu peux encore le faire. Et la foi grandissait parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu manques de foi en ce moment, tu as besoin de revenir dans la parole. Si tu veux que ta vie avance, tu as besoin de la parole de Dieu. Si tu veux te lever dans ton appel, tu as besoin de la confirmation de la parole de Dieu. Tu as besoin de la parole de Dieu comme nous avons besoin de l'air. Combien disent amen? Alors, est-ce qu'on pourrait être une église aujourd'hui qui dit, Seigneur, dès aujourd'hui et demain, nous allons ancrer nos pieds encore plus dans la parole. Et si j'aimais bien la lire, je vais aimer encore mieux la lire. Et si je n'aimais pas la lire, Seigneur, aide-moi à l'aimer parce que si ta parole est la vérité, je veux qu'elle me libère du mensonge que c'est juste un livre qui n'est que contextuel. Non, je veux être restauré par ta parole. Combien disent amen? Est-ce qu'on pourrait fermer les yeux alors que je vais prier? On va terminer par un chant.